Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Carlos Ghosn crie au complot. Première interview accordée depuis son arrestation. Complot des dirigeants de Nissan contre lui et ses projets. Il dément les accusations d'abus de confiance. Les réformes du gouvernement, bonnes ou mauvaises pour le pouvoir d'achat? Deux réponses dans ce journal. La loi alimentation dans les supermarchés à partir de vendredi accusée de peser sur le panier de la ménagère. En vert, une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Les décisions prises ces dernières semaines dopent le pouvoir d'achat et favorisent les ménages les moins aisés. Mathieu Plane, le directeur adjoint de l'OFCE, est notre invité. La neige, le vent et leurs conséquences 24 heures après l'arrivée de la tempête Gabriel. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Quelles conséquences sur les routes, dans les trains? On fera le point avec vous. Une première idée?
Eh bien, Gabriel part en Allemagne. C'est donc dans l'est et non un bout du nord-est que ça coince sur le réseau secondaire. Des arbres aussi sur les rails de la SNCF, retour à prévoir. En Ile-de-France, la célèbre N118 est en train de rouvrir.
Et bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Gabriel s'en va, vous confirmez?
Oui, effectivement, fin de vigile. Vigilance orange d'ailleurs sur l'Aisne, le Nord, les Ardennes et la Haute-Marne, mais on garde quand même la Meuse en vigilance orange jusqu'en début d'après-midi puisque la neige traîne encore un peu sur le Nord-Est. L'Aveyron reste aussi en vigilance orange puisqu'on attend de nombreuses averses de neige cet après-midi jusqu'à ce soir, et puis une large moitié ouest sera aussi touchée par de fréquentes averses avec des risques de grésil et même de neige seule sous les averses les plus fortes au nord de la Loire. Et puis près des frontières nord, sur le Centre-Est et autour de la Méditerranée, ce sera quand même un peu mieux, hormis en Corse où on attend des averses et surtout beaucoup de vent.
D'autres détails à 13h30. Oui, la sûreté nucléaire est à un niveau satisfaisant en France, mais inquiétude pour les années à venir, on cherche des travailleurs qualifiés.
Nous constatons une perte de compétences pour la réalisation d'opérations classiques, des soudures, du génie civil, et qui mettent en doute la capacité de la filière nucléaire à réaliser de nouveaux réacteurs.
À propos du nouveau patron de l'autorité de sûreté nucléaire, nous l'entendrons plus longuement. Le sport, Neymar, pas d'opération et un retour sur le terrain début avril, annonce le PSG. Le rugby, la composition de l'équipe de France pour le tournoi des 6 nations. Le procès des policiers accusés de viol au 36 quai des Orfèvres, 7 ans ferme requis. Cette question, le quotidien de Jean Jaurès va-t-il disparaître? Décision le 7 février pour l'UMA qui passait devant le tribunal de commerce ce matin. Et puis le choix cinéma d'Eva Bétan. Voilà le programme du journal de 13h. C'est parti. Alors, est-ce que les annonces et les réformes du gouvernement dopent ou plombent le pouvoir d'achat? Deux nouvelles pièces au dossier aujourd'hui. La première, c'est une enquête de nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. La loi alimentation trouve sa traduction concrète à partir d'après-demain en supermarché. Alors, est-ce la faute uniquement de cette loi? En tout cas, bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Certains produits de grande consommation vont voir leur prix augmenter, et pas qu'un peu.
Oui, alors l'idée de base au départ était de mieux rémunérer les agriculteurs en demandant aux grandes surfaces de réduire leurs marges pour que les agriculteurs bénéficient de prix plus justes sans que ça coûte plus cher aux consommateurs. Alors dit comme ça, tout le monde accepte, tout le monde est d'accord. Sauf que dans cette loi alimentation, il y a deux petites subtilités. C'est la hausse de 10% du seuil de revente à perte. En clair, quand une grande surface achète un produit 100 euros, on va dire, elle ne pourra plus le vendre moins de 110 euros. Donc les grandes surfaces vont être dans l'obligation, entre guillemets, d'augmenter leur prix. Et puis, les enseignes ne pourront plus proposer de rabais supérieur à 34%. Donc terminé, vous savez, les paquets de biscuits, on a acheté un et en fait on en avait deux. Ouais. Ça équivaut à un rabais de 50%. Donc c'est terminé. Résultat, les produits stars des rayons vont pratiquement tous augmentés. Quelques exemples, plus 8% pour les Danone Nature par 12, plus 8,7% pour l'huile Isio-4 Le Sieur et 8,7% également pour le Nutella. Et donc tout ça va se traduire par une perte de pouvoir d'achat pour tous les consommateurs, même si certaines grandes surfaces prévoient de reverser une partie de ces hausses à leurs clients via les programmes de fidélité qui concernent tout de même 96% de leurs clients.
Alors est-ce que tout cela est uniquement la faute de la loi alimentation? Est-elle mauvaise pour le pouvoir d'achat? Réponse du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume.
Ce dont on parle, c'est 4% du panier de la grande distribution. C'est 500 produits sur 13 000 dans les supermarchés et c'est 800 produits sur 20 000 dans les hypermarchés.
Donc il y a quelques...
Le panier moyen, lorsque les gens achètent de la viande, lorsqu'ils achètent du poisson, lorsqu'ils achètent ces produits-là, aujourd'hui, ils seront protégés, contrairement à avant. La loi stipule qu'une grande surface ne peut pas vendre des produits aux consommateurs moins chers que ce que ça vaut. Le problème, c'est pas ce que ça coûte, mais ce que ça vaut.
Didier Guillaume sur France Info. Ce matin, soyez donc attentifs aux étiquettes à partir de vendredi, tout particulièrement en supermarché. Les réformes et annonces du gouvernement dopent-elles ou plombent-elles le pouvoir d'achat? Deuxième pièce au dossier. Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour.
Directeur adjoint de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. Votre observatoire publie une étude sur le budget 2019 et les mesures annoncées depuis le début de la crise des Gilets jaunes. Et votre réponse est nette, hein. Oui, le pouvoir d'achat va être dopé par toutes ces décisions et la croissance stimulée.
Oui, 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 tout à fait. Alors, on a même un mouvement massif hein, oui. en termes fiscaux. Ce qu'on observe et en tout cas ce qu'on a analysé, c'est que globalement, les mesures fiscales et sociales hein, pour 2019,
revalorisation de la prime d'activité, défiscalisation des heures supplémentaires, annulation de la hausse de CSG, en voilà quelques-unes.
Ouais, il y en a, hein. Il y en a d'autres. Mais donc globalement, si on regarde d'un point de vue macroéconomique, ça représente quasiment 12 milliards. Oui. En direction des ménages, donc c'est quand même beaucoup. Et sur ces pratiquement 12 milliards, il y en a un peu plus de 10 qui sont liés aux mesures d'urgence suite à la crise des Gilets jaunes. Donc c'est vrai que ce mouvement en faveur du pouvoir d'achat fait suite justement à cette crise des Gilets jaunes. Et c'est vrai que quand on regarde l'historique, en termes de baisse de la fiscalité ou de la pression fiscale sur les ménages, il faut remonter à 2007. Et donc la fameuse loi TEPA Nicolas Sarkozy pour voir un tel renversement de tendance en termes de baisse de pression fiscale.
Alors il y a deux choses, vous dites, un, ça va doper le pouvoir d'achat et un peu la croissance, et petit deux, ça va favoriser les ménages les moins aisés, sous-entendu il faut un peu enlever l'étiquette de président des riches à Emmanuel Macron.
Alors, tout à fait, alors il y a deux choses, c'est-à-dire que la première chose c'est bien sûr, à partir du moment il y a une vraie impulsion budgétaire, donc on a quand même une relance, alors c'est pas une relance massive, mais c'est quand même une relance significative, elle va jouer sur l'activité. Nous, ce qu'on regarde, c'est que globalement, les mesures ménages et entreprises, dans leur ensemble, permettront un gain de croissance de l'ordre de 0,5 points de PIB. Toutes choses égales par ailleurs, ce qui est quand même assez important. Conséquent, surtout après des années où justement ça a été l'inverse. On a eu plutôt de la consolidation budgétaire qui a pesé sur l'activité. Donc là, il y a un vrai soutien à l'activité, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un vrai rééquilibrage sur 2019 en faveur des classes moyennes. C'est-à-dire que, effectivement, les premiers bénéficiaires, en tout cas, sont plutôt les classes moyennes, et notamment les classes moyennes actives, c'est-à-dire c'est les actifs de la classe moyenne, c'est-à-dire que c'est les défiscalisations des heures sup, c'est les baisses de cotisations, c'est la réforme de la taxe d'habitation, ça va donner quand même du pouvoir d'achat aux actifs.
L'inconvénient, c'est qu'on creuse les déficits.
Voilà, alors par contre, voilà, il y a le revers de la médaille, c'est que la plupart des mesures qui ont été annoncées sont pas financées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie en face ou de hausse de fiscalité très forte par ailleurs. Et donc, bien sûr, la conséquence, c'est qu'on a un déficit public qui va augmenter, qui va repasser au-dessus des 3% de déficit public. Et donc, la question qui va se poser pour la suite, c'est est-ce que le gouvernement, pour la suite du grand débat, et est-ce que s'il y a des mesures, est-ce qu'il a les moyens justement de financer ces mesures, de donner des mesures et surtout quels seraient potentiellement les financements en face.
Mathieu Plane, encore une question. L'INSEE vient de donner les chiffres de la croissance 2018, 1,5% après 2,3% en 2017, ça ralentit. La consommation des ménages est faiblarde, mais l'investissement et le commerce extérieur se portent plutôt bien. C'est quoi? C'est un bilan plutôt rouge, plutôt vert? Vous le définiriez comment?
Plutôt rouge, parce que on va dire que des choses ont résisté, l'investissement et le commerce extérieur, et ça c'est très bien, l'investissement des entreprises. En revanche, effectivement, la consommation des ménages a pénalisé la croissance en 2018 et pour des raisons qui sont plutôt internes. La première, c'est le choc fiscal de début d'année qui a été défavorable, la CSG, la taxe carbone qui a pesé sur le pouvoir d'achat. Et la fin d'année devait être positive et on devait avoir une accélération, sauf que c'est arrivé au moment de la crise des jeunes qui a créé une vraie incertitude et on voit que les ménages, là, sur le dernier trimestre, sont plutôt épargnés que consommés, ce qui n'est pas favorable sur l'activité à court terme.
Merci Mathieu Plane d'être venu dans les studios de France Inter répondre à nos questions. Et puis il y a un autre débat qui s'ouvre, c'est celui du prix de l'énergie et de l'électricité. La Commission de régulation de l'énergie propose une hausse du tarif réglementé de l'électricité de près de 6%. Le gouvernement a promis qu'il n'y aurait pas de hausse dans les semaines à venir. Il y aura donc un arbitrage à réaliser. Pour l'instant, le gouvernement n'appliquera pas cette recommandation, fait savoir Bercy. 72 jours de prison et pour la première fois, Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan, accorde une interview à la presse. Le journal économique Nikkei, passage le plus marquant, la dénonciation d'un complot de Nissan contre lui. France Inter à Tokyo, Frédéric Charles.
Carlos Ghosn dit avoir aucun doute que les accusations portées contre lui sont la conséquence d'un complot et d'une trahison de la part des dirigeants de Nissan. Pas plus tard qu'en septembre dernier, il avait parlé avec son successeur, Hiroto Saikawa, l'actuel patron de Nissan, de son projet d'une holding commune. Mais les dirigeants de Nissan étaient opposés à une intégration plus poussée entre Renault et les deux partenaires japonais de l'alliance, Nissan et Mitsubishi. C'est la première fois que Carlos Ghosn déclare que cette intégration, une fusion totale selon le journal Nikkei, voulue par le gouvernement français, inclut aussi Mitsubishi. Nissan réagit aussitôt, rappelle que son patron, Hiroto Saikawa, a toujours réfuté la notion de coup d'État. Son règne de 19 ans à la tête de Nissan ne relève pas de la dictature, s'insurge Carlos Ghosn. Les gens ont déformé la réalité pour se débarrasser de moi. Tokyo, Frédéric Charles, RFI, pour France Inter.
La gauche traverse une phase difficile en France. L'Humanité, le journal en difficulté, le quotidien communiste fondé en 1904 par Jean Jaurès, est en cessation de paiement. Audience au tribunal de commerce ce matin. Stop ou encore, la décision sera prise le 7 février. Du côté de l'Humain, on semblait ce matin avoir bon espoir que cela continue. L'Humanité qui a lancé une souscription, c'est loin d'être la première. Et par ailleurs, un meeting de soutien est prévu le 22 février. À Paris. La tempête Gabriel, on y vient avec Delphine Evenou, comme promis dans les titres. Delphine, cette tempête, elle est donc en train de s'éloigner vers l'Allemagne. Ça coince donc encore du côté de l'Est, c'est ça?
Oui, avec des perturbations à signaler ce midi à la frontière avec le Luxembourg, sur l'A30, sur la Nationale 52. Le manteau neigeux est toujours présent aussi sur le réseau secondaire dans le triangle Toul-Saint-Dizier-Chaumont. Sur la N118, la fameuse au sud-ouest de Paris, la situation est incertaine. La préfecture de police de Paris indique qu'elle est rouverte dans le sens province-Paris, mais visiblement un accident complique la situation. Réouverture totale, complète, prévue, c'est sûr, en début d'après-midi. Dans les Hauts-de-France, où 5 à 10 cm sont tombés, les restrictions de circulation des poids lourds sont levées depuis une heure. Ce n'est pas encore le cas en Seine-et-Marne, où un millier de poids lourds a été stocké cette nuit.
Et voici Polo, alsacien, bloqué sur la Nationale 4 en Seine-et-Marne. Il est au micro de Sébastien Sabiron.
Je viens de l'Alsace, de chez PSA à Mulhouse, et là je me dirige en direction de la Normandie, de Louviers, un chargement à faire, je dois passer par Paris, et puis là il y a une interdiction de circuler depuis 4h du matin, je suis arrêté ici, sur la Nationale 4, et j'attends qu'on puisse nous débloquer, qu'on puisse faire notre journée de travail, quoi. Qu'ils nous laissent rouler, parce qu'en fin de compte, c'est les camions qui dégagent un peu la neige sur les routes, quoi.
Alors Delphine, voilà pour les voitures et les camions, qu'est-ce qu'il en est des transports en commun?
Des vols retardés ou annulés ce matin à Lille-Léquin et Biarritz, ça s'améliore. Côté train, chute d'arbres, 3 lignes de TER coupées en Picardie. Des retards aussi sur l'axe TGV Paris-Lille-Calais, c'est compliqué également sur la ligne C du RER. Et puis les transports scolaires suspendus dans de très nombreux départements aujourd'hui.
Et puis des coupures d'électricité encore.
Oui, mais ça s'améliore. À 12h30, 23 000 foyers privés de courant selon Enedis, dont 8 500 dans les Hauts-de-France, 6 000 en Nouvelle-Aquitaine et 5 000 en Île-de-France. Retour à la normale ou presque prévue ce soir. Un message de prudence pour terminer. Bruno, Gabriel est parti, mais le regel est attendu dans la nuit. Attention donc sur les routes, notamment en Île-de-France.
Et Gabriel fait tout de même des heureux. La neige fait des heureux. Petite illustration, parole d'Amiénois ce matin.
Là, je fais attention quand même. Pas non plus la catastrophe. Hein.
Pour marcher, c'est pas facile, donc on prend pas la voiture ce matin, on y va à pied. J'ai 15 minutes de marche, seul feu, c'est beau, la neige.
C'est quand même un petit peu embêtant de pas aller à Paris.
Ouais, mais en même temps, t'as de quoi t'amuser aussi aujourd'hui.
Ah non.
La neige, t'aimes pas ça?
Pas trop, non. Non, c'est surtout qu'à cause de ça, tu peux congeler, tu vas avoir mal aux pieds, froid aux mains.
C'est un peu compliqué aussi pour circuler, là. Même en voiture, je crois, ou même à pied, j'aurais dû chausser mes skis.
Ah oh bon non, en fait, ils ne sont pas si contents que cela, les Amiénois. On fait un point complet sur la météo à la fin de ce journal avec Sébastien Léas. L'actualité à l'étranger à présent, la rue va-t-elle faire pencher la balance un peu plus en faveur du leader de l'opposition, Juan Guaido, au Venezuela? Une semaine qu'il s'est autoproclamé président. Ces dernières heures, le président élu, élection contestée, Nicolas Maduro, a fait des concessions dans une interview à une agence russe. Il est prêt à s'asseoir à la table des négociations avec l'opposition, prêt à organiser des législatives anticipées, pas une présidentielle. Le rendez-vous de la journée, c'est l'appel à manifester et paralyser le pays, lancé par Guaido. Sacha Coleman, vous êtes l'envoyé spécial de France Inter au Venezuela. 8h14 à Caracas, début d'une journée peut-être clé, Sacha.
Oui, c'est une journée en même temps comme les autres, j'ai envie de vous dire, qui commence ici. Les gens vont aller travailler comme d'habitude. Vous savez, c'est pas la première manifestation, il y en a eu beaucoup. En revanche, vous l'avez dit, elle tombe dans un moment plus tendu dans le bras de fer qui oppose le président Maduro à Juan Guaido, le président par intérim. Plus tendu parce qu'il y a l'ultimatum des Européens qui approche tout doucement et qui demande la tenue de nouvelles élections. Il y a aussi le renforcement des sanctions américaines. Et puis il y a les petits coups bas. Hier, Guaido apprenait qu'il n'avait plus le droit de sortir de son pays et que ses comptes étaient bloqués. et puis un peu plus tard, là encore, vous l'avez dit, ce semblant de dialogue de Maduro qui veut bien parler des élections, mais pas de la présidentielle. Et aujourd'hui donc, c'est l'opposition qui appelle à manifester pour demander aux militaires de changer de camp. Alors, dans ce contexte, oui, les Vénézuéliens vont se faire entendre, pas de grande marche. L'idée, c'est de faire que la vie s'arrête pendant 2 heures entre midi et 14 heures. Tout paraît calme ce matin, mais il ne faut pas oublier qu'il y aurait eu 40 morts selon l'ONU lors des dernières manifestations de la semaine dernière.
Sacha Coleman en direct de Venezuela avec Gilles Brière pour France Inter. En Thaïlande, les autorités ordonnent la fermeture de centaines d'écoles à Bangkok. Bangkok, la ville frappée depuis plusieurs semaines par un épisode de pollution qui amène donc à fermer des centaines d'écoles. Le Brexit, l'Europe souhaite-t-elle négocier de nouvelles choses avec la Grande-Bretagne? On attend cet après-midi une réponse du président de la Commission européenne et peut-être du négociateur dans cette affaire pour l'Europe, Michel Barnier.
France Inter, le journal de 13 heures. Bruno Duvy.
Et si la limitation très stricte du cumul des mandats était une bêtise? Il n'est plus possible, vous le savez, d'être d'un côté député ou sénateur et en même temps d'avoir un mandat local important. Sébastien Lecornu, le ministre des collectivités territoriales, était ce matin l'invité de France Inter. Le débat est ouvert, dit-il.
Le débat est ouvert. Je sais qu'un certain nombre de collègues élus, soit parlementaires, soit du locaux, l'expriment, craignant le fait d'avoir des députés ou des sénateurs parfois hors sol. Après, peut-être que sous le quinquennat de François Hollande, la question du cumul des indemnités n'avait pas été traitée comme il se devait. Après tout, ce qui était choquant aussi, c'est de voir des élus qui cumulent des fonctions uniquement pour arriver à cumuler des indemnités. Ça repose aussi la question du statut de l'élu.
Voilà pour les propos de Sébastien Lecornu, qui est aussi celui qui co-anime le grand débat à travers la France. Alors Maxence Lambrec, dans cet épisode où on parle et on remet un petit peu tout en cause, la droite en particulier pousse pour une remise en cause de ce non-cumul.
C'est le moment ou jamais de faire marche arrière, pense-t-il, à l'heure où les Français en ont marre de la déconnexion des élus, à l'heure où Emmanuel Macron veut transformer nos institutions. Il a d'ailleurs entrouvert la porte lors d'un débat en Normandie. Faut-il permettre de réavoir des mandats locaux dans une certaine proportion sans être dans des exécutifs de premier plan? Peut-être, s'est interrogé le chef de l'État début janvier. Autrement dit, pourquoi pas cumuler un mandat de parlementaire avec celui de maire ou d'adjoint d'une commune de moins de 20 000 habitants, par exemple. J'y suis favorable, reconnaît un ministre, mais ce n'est pas au gouvernement de porter cela. Et attention, il faudrait bien distinguer, comme vient de le faire Sébastien Lecornu, le cumul des mandats et le cumul des indemnités. Pas question que les députés augmentent leur salaire en redevenant maire, assure-t-on dans la majorité. La droite craint la caricature, l'association des maires de France aussi. Ils ne savent pas encore comment s'y prendre pour relancer ce débat. Il compte beaucoup sur le patron du Sénat, Gérard Larcher. Est-il en train de négocier avec l'exécutif une contrepartie à la baisse du nombre de parlementaires? Sans doute, analyse un pilier de la droite.
Et le débat, il se déroule aussi sur France Inter. Un rendez-vous à ne pas manquer, émission exceptionnelle ce soir. Le Premier ministre Édouard Philippe face aux auditeurs de France Inter. Horaire un petit peu inhabituel, c'est entre 19 et 21h ce soir. Édouard Philippe face aux auditeurs de France Inter. Moins de 3 jours après l'incendie qui a fortement endommagé les locaux de France Bleu Isère à Grenoble, une revendication. Véronique Pueyo.
Si le style du texte est typique de la littérature anarcho-libertaire, la revendication, elle, est très claire. Ainsi, sur ce blog, on peut lire, je cite, « Beaucoup font couler l'encre à propos des médias pour les critiquer. » Peu font couler l'essence dans leurs locaux pour les incendier, à cela on remédie. Ou encore un grand bravo aux individus qui par monts et par vaux perpétuent l'attaque et veulent tout mettre à sac, fin de citation. L'ultra-gauche revendique également l'incendie dans la nuit de lundi à mardi d'un émetteur de TDF situé à Jarry, au sud de Grenoble. Selon le procureur, qui a confirmé le caractère criminel de l'incendie de France Bleu Isère, on ne peut pas pour autant parler de revendication en bonne et due forme. Il faut rester prudent, dit-il, cela peut s'apparenter à de la récupération. Toutefois, selon une source proche de l'enquête, le mode opératoire, l'heure, la cible, tout rappelle les incendies qui, depuis mars 2017, ont éclaté dans l'agglomération grenobloise. Gendarmerie, agence immobilière, CCAS, centre scientifique, agence de BTP. Malgré le travail effectué depuis 2 ans, il n'y a eu aucun auteur formellement identifié et aucune poursuite judiciaire.
Voilà pour cette revendication donc de l'incendie qui a endommagé les locaux de France Bleu Isère. Revendication sur un blog anarcho-libertaire. La filière nucléaire recherche désespérément des soudeurs qualifiés. Alors précisons tout de suite que oui, la sûreté nucléaire s'est maintenue à un niveau satisfaisant en France l'année dernière. C'est ce que dit le nouveau patron de l'autorité de sûreté nucléaire. Mais l'ASN s'inquiète d'une perte de compétences dans certains métiers cruciaux et demande à la filière de faire un effort de formation, notamment dans le génie civil. Sandy Dauphin.
La France sait-elle encore construire de nouveaux réacteurs nucléaires? Quand les travaux de l'EPR de Flamanville ont démarré en 2007, cela faisait presque 20 ans qu'aucune centrale n'avait été construite. Il y a eu une perte de savoir-faire, explique Bernard Dorozuc, président de l'autorité de sûreté nucléaire. La preuve, les anomalies détectées sur les soudures du chantier de l'EPR.
Nous constatons une perte de compétences pour la réalisation d'opérations classiques, des opérations industrielles, des soudures, des contrôles non destructifs, du génie civil, d'électromécanique, et qui mettent en doute aujourd'hui la capacité industrielle de la filière nucléaire à réaliser de grands travaux, et bien évidemment la construction de nouveaux réacteurs.
L'autorité de sûreté nucléaire demande à toute la filière de se remobiliser. Le gouvernement vient de publier sa feuille de route énergétique pour les 10 ans à venir, la PPE. Un cap indispensable pour recruter et former, estime Dominique Minière, directeur du parc nucléaire et thermique d'EDF.
Quand on parle des compétences et de la formation, il est clair qu'on ne peut avoir de l'attractivité, mobiliser des compétences et former que si on a de la visibilité. Maintenant, avec ce projet, on l'a.
La filière nucléaire vient de signer son contrat stratégique avec le gouvernement. La formation figure parmi les 4 axes prioritaires.
Et si vous êtes cloué au lit par la grippe, consolez-vous, vous n'êtes pas le seul ou la seule. Loin de là, l'épidémie s'est maintenant installée dans toutes les régions de France métropolitaine, selon Santé publique France. Dans une pièce de théâtre, on parlerait de retournement de situation. L'accusatrice qui devient quasiment accusée, c'est l'histoire un peu du procès des deux policiers du 36 quai des Orfèvres, deux flics d'élite accusés d'avoir violé une femme au 36 après une soirée alcoolisée. Mais au fil des débats, c'est le passé, l'attitude de la femme touriste canadienne de passage à Paris en avril 2014 qui a été questionnée. Inversion des rôles dénoncée hier par les avocats de la partie civile. Alors, on attendait le réquisitoire de Philippe Courat. Bonjour Laurélie Carive.
Bonjour.
C'était ce matin, réquisitoire sévère, 7 ans de prison requis, Laurélie.
Oui, pas plus de 2-3 mètres séparent dans cette salle Émilie Spanton de ce qu'elle accuse. Et pourtant, ces 2-3 mètres forment aujourd'hui un océan infranchissable, tant leurs versions sont irréconciliables. C'est par ces mots que l'avocat général Philippe Courat commence tout à l'heure son réquisitoire. Il explique que, comme dans un dessin impressionniste, la somme des éléments du dossier l'incline à croire la plaignante. Malgré ses imprécisions, sans doute dues à l'alcool et au cannabis, elle a dénoncé les faits immédiatement et avec constance dans les détails. Le verre de scotch que les policiers l'auraient forcé à boire, le bruit de l'emballage du préservatif qu'on déchire, celui d'un appareil photo, et elle a toujours désigné les deux accusés. Le représentant du ministère public tourne au passage en dérision la version des policiers. Leur dénégation initiale, faite, dit-il, avec une pudeur de gazelle, les rapports sexuels consentis qu'ils ont finalement admis, mais qui ne collent pas avec les traces ADN retrouvées. Ce sont bien les policiers, note-t-il, qui ont initié le contact, d'ailleurs dans un pub irlandais et dans une ambiance de mâle dominant en rut. Je crois que le nom est une question qui ce soir-là ne s'est même pas posée. Ils ont voulu, ils se sont servis, assène le magistrat. Ces policiers qui avaient un devoir d'exemplarité ont menti, dissimulé et failli.
Laurélie Carive en direct de la cour d'assises de Paris pour France Inter. L'équipe de France de rugby va-t-elle enfin sortir du marasme? Le tournoi des 6 nations 2019 commence après-demain, vendredi, à Saint-Denis, face au Pays de Galles. Et Jacques Brunel présentait ce matin sa sélection. Bonjour Vincent Pellegrini.
Bonjour Bruno.
Deux petits nouveaux, un grand perdant. Premier nouveau venu, son nom est connu des amateurs de rugby, Ntamack, mais c'est le fils, Romain.
Oui, c'est un pari osé, un des choix les plus audacieux de la part de Jacques Brunel depuis qu'il a pris ses fonctions. Il va lancer donc dans le grand bain un des grands espoirs du rugby français, Romain Ntamack, pas encore 20 ans, le fils effectivement de Emile Ntamack. Ouais. Ancien international, qui a été également entraîneur adjoint du 15 de France. Romain faisait partie de l'équipe de France des moins de 20 ans, sacré championne du monde en juin dernier. Il brille avec le Stade Toulousain depuis le début de la saison. Jacques Brunel compte sur son insouciance, sa vitesse, son jeu au pied. C'est quand même un sacré baptême du feu pour ce jeune joueur qui va fêter sa première sélection dans un match sous haute tension vendredi soir au Stade de France.
Un grand perdant des choix de Jacques Brunel, celui qui était vice-capitaine de l'équipe jusque-là, Mathieu Bastaro.
Oui, effectivement, il a décidé de se priver de la puissance, de l'expérience, des qualités défensif de Mathieu Bastaro, dont il avait fait son vice-capitaine. Alors ce matin, Jacques Brunel a dit qu'il n'était pas écarté définitivement Mathieu Bastaro du 15 de France, mais il ne figure même pas dans le groupe des 23, il ne sera même pas remplaçant. C'est quand même un désaveu pour le trois quarts de Toulonnais.
Autre petit nouveau en mêlée, deuxième ligne, Paul Willemse.
Oui, alors petit si on peut dire, parce qu'il fait 2m01, 135 kilos, c'est un véritable colosse. Jacques Brunel voulait appeler le Montpellierain pour la tournée de novembre, mais le joueur d'origine sud-africaine n'avait pas encore reçu son passeport français. C'est désormais chose faite. Jacques Brunel espère qu'il va apporter sa puissance, son agressivité à un pack français qui avait été très mal mené en novembre par les avants des îles Fidji, donc deux novices pour un 15 de France en panne de résultats, en plein doute, et qui va affronter vendredi au Stade de France une équipe galloise qui reste sur 9 victoires consécutives.
Vendredi au Stade de France à 21h. Merci beaucoup Vincent Pellegrini, le football. Neymar de retour sur les terrains dans 10 semaines. Pas d'opération pour la star brésilienne du PSG, c'est ce que dit le club ce matin. On lui propose un traitement conservatif de sa lésion du 5e métatarse. Deux matchs à suivre en foot. Ce soir, Strasbourg-Bordeaux, deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue. Le vainqueur jouera contre Guingamp. Et puis à 21h, un match décalé de la 22e journée, Nantes-Saint-Etienne. Les sorties cinéma de la semaine. Bonjour Eva Bettan.
Bonjour.
Vous nous avez conseillé ce matin si Beale Street pouvait parler, histoire d'amour, de racisme, de violence dans le Harlem des années 70. La Riviera, maintenant dans ce journal de 13h, le dernier film en date comme réalisatrice de Valeria Bruni Tedeschi. C'est déjà son 5e film, hein. Il s'appelle Les Estivants, histoire entre autres d'un couple qui se défait dans une maison de vacances. Il y a une bonne partie de sa famille devant la caméra, elle nous raconte encore sa vie.
Écoutez, ça pourrait être glaçant ou même, je dirais, un plaisir hypocrite. Vous savez, des potins avec l'onction de respectabilité oui. Du cinéma. Eh bien non, la différence, c'est la mise en scène. Elle fait du cinéma. Elle prend son propre univers, mais elle en fait un univers de cinéma. Et puis, il y a son ton, cet humour féroce qui frôle la vivisection. Et elle ne s'épargne pas, elle la première. Et avec en même temps une dose de mélancolie. Et puis, ce que je trouve fascinant, et c'est la chance d'avoir le cinéma. Nous, on l'a pas. Quand on est malheureux, on est malheureux. Elle fait du cinéma de l'après-coup. D'un coup dur, eh bien après elle va le transfigurer avec une dose de rire, de ridicule, qui va se mêler aux larmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film Un château en Italie, le désir d'enfant avait donné lieu à une scène d'anthologie. Ici, c'est donc une séparation. Et je ne vous dis rien, vous verrez une scène, juste à un moment donné, il y a un abribus et vous penserez à ce que je vous ai dit. Alors c'est donc la séparation et juste l'après. Oui, il y a toujours sa mère qui joue. Non, sa sœur ne joue toujours pas. C'est Valeria Golino qui joue. Ouais. Et elle est mariée non pas avec un homme politique de premier plan, je n'ai rien dit, mais avec un homme d'affaires déchu et présenté comme imbuvable. Il y a aussi la question d'un film en train de se faire dans ce film. Et ce qui est nouveau, je dirais, dans son cinéma là, cette fois-ci, c'est que c'est un film de groupe. Différents groupes, la famille, bourgeoisie finissante, je dirais.
C'est pas les gagneurs casting, d'aujourd'hui. Hein. Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Wolfski.
Et il y a aussi le monde des domestiques. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle montre que quand on est malheureux, pendant que les autres se baignent, vous êtes là en train de crever. Elle montre ce décalage. Et puis en même temps, il y a une générosité de metteur en scène. Parce qu'elle les laisse exister alors que le chagrin, c'est très égocentrique. On devrait ne penser qu'à soi. C'est là où je parle de mise en scène. Il y a des scories, il y a des moments où ça s'agrège mal. Ça n'a pas grande importance. Il y a quelque chose de fraternel et de libérateur dans ce film.
Ça s'appelle, Les Estivants. Et donc, vous penserez à Eva Bettan lorsque vous verrez la scène de l'abribus. Oui. Au cinéma cette semaine, il y a également Eva Minuscule 2, La vie des toutes petites bêtes. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ? Christian Clavier et Chantal Lobby. Merci Eva. Mercredi prochain, la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Sébastien Léas.
Après l'épisode neigeux de la nuit qui s'attarde encore un peu près des frontières du Nord-Est, un ciel de traîne se met en place. Entre le Nord-Pas-de-Calais, les Ardennes, la Franche-Comté et Rhône-Alpes, on profite d'un temps calme et d'éclaircies. Mais plus à l'ouest, les averses se multiplient. La limite pluie-neige se situe vers 500 mètres sur le Massif central et 800 mètres sur les Pyrénées. Au nord de la Loire, ces averses peuvent se faire sous forme de giboulées, voire de neige seule, sous les intensités les plus fortes, notamment en fin d'après-midi. Autour de la Méditerranée, l'après-midi se passe sous les éclaircies avec plus de soleil en Provence. Mais en Corse, le temps est plus agité, en particulier sur l'ouest de l'île qui est touché par des averses et du vent fort. Les températures restent toujours froides avec 2 à 8 degrés cet après-midi sur la moitié nord et 5 à 11 degrés plus au sud.